RFI.
Mondial Sport sur RFI. Christophe Diremzian.
Bonsoir à tous, Mondial Sport au cœur de l'été en France, mais pas de relâche pour l'actualité sportive. Pour autant, la preuve, la Ligue 1 est de retour ce week-end. Marseille et Monaco sont bien partis en attendant l'entrée en lice demain de l'épouvantail parisien. Le résumé de la première journée dans un instant. Ensuite, des tours par Tanger qui s'apprête à accueillir la Super Coupe d'Espagne entre le Barça et le FC Séville. Samuel Eto'o en interview, l'ex-Lyon indomptable a répondu à Christophe Boisbouvier sur son actualité, celle du Cameroun. Quel est son avenir en club après son départ en Turquie? De Turquie. Que pense-t-il de la nomination du duo Clarence Seedorf-Patrick Kluivert à la tête de la sélection nationale? Il donnera aussi son avis sur l'organisation de la CAN 2019. Le tour du Rwanda, la veille du dénouement à Kigali, où le peloton est d'ailleurs déjà arrivé ce samedi. Victoire d'étape espagnole et Samuel Rugisha, tout proche d'un premier sac. On retrouvera notre envoyé spécial Olivier Pron. Les championnats européens multisports à Glasgow et Berlin, 7 nouvelles médailles ce samedi pour la France. Athlétisme, natation, triathlon, gymnastique, tous les résultats à suivre. Et puis, il est le nouvel entraîneur désigné pour porter haut les couleurs du handball féminin du Congo lors de la CAN 2018 à la Finlande et à Brazzaville. Thierry Vincent relève le défi d'emmener la sélection fin 2019 au championnat du monde. Entretien en fin d'émission. Pour certains, le bronzage est déjà parti depuis un petit moment. Pour les autres, ceux qui rentrent à peine de vacances tardives pour cause de jolis parcours à la Coupe du Monde, il est en train de s'estomper, car oui, même pas après un mois, après la fin du Mondial, les championnats de football reprennent tout doucement, à commencer par la France. Une rentrée à la saveur particulière pour les 8 champions du monde tricolores évoluant sur les terrains de Ligue 1, notamment pour les 3 Marseillais concernés au Vélodrome vendredi en ouverture de cette première journée. Une rentrée qui continue ce samedi. Martin Guez, bonsoir.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous.
Monaco, bon élève l'an dernier, tentait justement de rejoindre Marseille, le premier de la classe.
Et des Marseillais qui ont collectionné les bons points vendredi en battant Toulouse 4-0. Tandis que Monaco, vice-champion de France l'an passé, se rendait à Nantes cet après-midi. Et les hommes du Rocher ont eux aussi rendu une excellente copie, victoire 3-1. Rony Lopez, Jovetic et Falcao sont les buteurs monégasques, tous en seconde période. Emiliano Sala a réduit la marque dans le temps additionnel. Monaco qui démarre bien et qui revient à hauteur de Marseille. Mais pour le premier buteur, Rony Lopez, son équipe s'en sort bien après une première période difficile, mais il en est sûr, Monaco peut mieux faire.
Il y a encore beaucoup à progresser, mais c'est bien cette victoire pour bien démarrer la saison. Premier match du championnat, une victoire, c'est bien, on est content. Je pense que première mi-temps, on n'a pas bien joué, mais là, on était patient et on savait qu'on avait la qualité pour marquer. Après la deuxième mi-temps, on a continué à travailler. Nantes, ils ont donné d'espace et on a bien profité, on a marqué des buts. On a créé d'occasions aussi qu'on n'a pas réussi à marquer, mais ça fait part de notre travail de progresser pour continuer à marquer plus de buts.
Rony Lopez au micro de Canal+.
Monaco qui rejoint Marseille en tête, tandis que les petits nouveaux ont fait bonne impression pour leur début en Ligue 1.
Nîmes et Reims ont brillamment passé leur premier test. Mention spéciale au promu nîmois mené 3-1 et réduit à 10 à Angers. Les Crocodiles ont retrouvé tout leur mordant en renversant la situation et l'emportant 4-3. Reims est resté plus sobre, mais c'est tout aussi efficace. Victoire 1-0 à Nice. Et bonnet d'âne pour Patrick Vieira qui rate sa première à la tête des Aiglons. De son côté, Lille, après une saison chaotique, repart du bon pied. Victoire 3-1 sur Rennes grâce à l'Ivoirien Nicolas Pepe et au Sud-Africain Lebo Motiba, tous deux buteurs. Victoire également pour Dijon à Montpellier, de Saint-Etienne sur Guingamp, à chaque fois sur le score 2-1. Une première journée qui démarre avec une superbe moyenne de classe, déjà 28 buts marqués.
Et demain, les retardataires tenteront de se montrer au niveau.
D'abord Lyon qui reçoit Amiens et qui voudra suivre la cadence, car les cadors sont bien partis. Bordeaux accueille Strasbourg et en clôture, le champion parisien défiera Caen.
Merci beaucoup Martin Guez. La première ligue redémarre également ce week-end. La plupart des ténors ne joueront que demain. On notera quand même l'entrée en matière plutôt réussie de Manchester United, vainqueur hier de Leicester 2-1 grâce notamment à un pénalty de Paul Pogba, la bonne opération de Tottenham à Newcastle 2-1 également et la petite balade de Chelsea à Huddersfield 3-0 avec une ouverture signée N'Golo Kanté. Demain au programme entre autres Liverpool-West Ham et le premier choc de la saison entre Arsenal et le champion en titre Manchester City. Encore une petite semaine de patience avant de retrouver la Liga espagnole, mais pas autant pour revoir ses clubs phares puisqu'il a lieu demain et pour la première fois sur un seul match, la Super Coupe nationale entre le FC Barcelone, champion en titre, et le FC Séville, vainqueur de la Coupe du Roi, rencontre délocalisée à Tanger. Thomas, bonsoir. Bonsoir Christophe Diremzian en Tanger, oui, qui avait accueilli l'an passé le trophée des champions version Ligue 1 PSG Monaco. Cette fois, c'est Messi et compagnie qui traversent le détroit de Gibraltar et ils joueront à domicile ou presque les Catalans. La ville compte énormément de supporters du Barça, alors forcément là-bas, l'événement est très attendu. Le reportage d'Ismaël Marchand.
Cet après-midi-là, c'est toujours le même refrain devant la billetterie du stade Ibn Battuta. Les places à 350 dirhams ont toutes été vendues. Il ne reste que celles à 500, 1000, 1500 dirhams. La billetterie du stade en surchauffe. À quelques jours de la rencontre, les voitures défilent. On vient chercher les derniers billets qui coûtent une petite fortune. Ça n'a pas découragé Amal, ni sa sœur Sarah.
C'est le rêve de voir tous les stars, les meilleures stars du football qui vont venir ici. Cette ville, c'est
influencée, soit Barcelone, soit Madrid.
Oui.
Donc c'est le grand match.
Pour les retardataires, il y a encore le marché noir qui s'organise sur le rond-point d'à côté où les prix s'envolent. C'est le moment de faire des affaires, comme Mustapha qui a déployé sur un drap maillot et drapeau blaugrana.
Il y a de la demande pour les maillots, les produits dérivés en général. Nous souhaitons la bienvenue à cette grande équipe du FC Barcelone et j'espère que tout va bien se passer pour ce match.
L'organisation, justement, Darby est inquiet pour cause. Il était au stade l'année dernière pour assister au trophée des champions. Il est belgo-marocain et travaille dans une école de foot à Bruxelles.
Du foot, on verra du foot. Mais l'organisation, ce qui nous manque ici dans notre pays à nous, c'est l'organisation. J'espère qu'ils vont respecter les numéros, les entrées et tout ça, parce que j'étais très déçu l'année passée. Quand je suis venu voir Monaco, Paris Saint-Germain, en tout cas, c'était... Bah, allez, je veux dire, c'est pas du football que tu regardais, c'était plus des gens dit reculés, assis. On était tous mélangés, j'ai eu peur de prendre mon petit avec moi et tout ça, parce que c'était très dangereux. C'est quelque chose de bien ce qu'ils font, la Supercoupe. Pour nous, c'est bien parce qu'on a raté peut-être la Coupe du Monde, mais on n'est pas prêt pour faire la Coupe du Monde. Il nous manque encore des choses. Ce n'est pas les terrains, mais c'est autre chose qui nous manque quand même.
Et il est vrai que ce match aura valeur de test pour le Maroc qui rêve d'organiser la Coupe du Monde 2030. Un quotidien du Royaume annonçait il y a quelques jours un dispositif exceptionnel pour assurer la sécurité des stars venues d'Espagne. Des agents des forces de l'ordre de plusieurs villes auraient été mobilisés. Ismaël Marchand, Tanger, RFI.
Rendez-vous demain donc, 20h, temps universel au grand stade de Tanger pour cette Supercoupe d'Espagne, FC Séville, FC Barcelone.
Lui est une ancienne gloire du Barça, le plus indomptable des Lions. Samuel Eto'o est en ce moment à Paris et RFI l'a rencontré, Thomas.
Il était ce matin l'invité de Christophe Boisbouvier, Samuel Eto'o qui s'est confié assez franchement sur son avenir personnel en club comme en sélection, sur la CAN 2019 et les craintes qui persistent au sujet de l'organisation camerounaise. Mais d'abord, l'ancien capitaine des Lions est revenu sur l'actualité brûlante, la nomination à la tête de l'équipe nationale du tandem Batave-Seedorf en numéro 1, Kluivert en adjoint, un choix qu'il valide à 100%.
Je suis plutôt content, très content même, parce que les dirigeants de notre pays ont porté un choix qui n'est non seulement sportif, mais qui va beaucoup plus loin que ça, parce que, à mon avis toujours, l'équipe nationale du Cameroun est la meilleure équipe au monde, pour moi. Et là, on a porté ce choix sur Clarence Seedorf et Patrick Kluivert. Je suis plus que satisfait.
Alors, Seedorf et Kluivert sont en effet deux grandes stars du football néerlandais et mondial, mais ils n'ont pas une grande expérience comme sélectionneurs. Est-ce que ce n'est pas plus un choix de prestige qu'un choix d'expérience?
Je vais vous prendre un exemple. Quand Guardiola arrive en 2009, il n'a pas encore entraîné une équipe de première division. Il entraîne Barcelone B. Pendant 8 mois, il le fait très bien. Et il se retrouve en train d'entraîner le Barça. Clarence Seedorf, très jeune, a entraîné l'une des plus belles, si ce n'est pas la plus belle équipe au monde, le Milan AC. Et ça, ce n'est pas donné. Parlant de Patrick Kluivert, il a été dans ce staff qui a conduit la sélection néerlandaise. Je ne me souviens plus bien, mais je crois que c'était en quart ou en demi-finale.
Au Brésil.
Au Brésil. Et ce sont des grands joueurs. Et ceux qui veulent nous faire croire qu'ils n'ont pas une certaine expérience en tant qu'entraîneur, je dirais que c'est du n'importe quoi.
Alors, voilà plusieurs années que vous n'êtes plus dans l'équipe nationale. Est-ce que vous seriez prêt à y revenir pour la CAN 2019?
Non. je ne reviendrai plus, même si je suis toujours en activité, pour plusieurs raisons. Déjà, un, parce que j'estime que ce soit Choupo-Moting, Aboubakar, Clinton Dieh ou d'autres, nous sommes bien couverts à ce poste. Et de l'autre côté, parce que je ne veux pas donner raison à ceux qui souhaiteraient avoir une excuse pour pouvoir créer le désordre dans cette équipe. Il faut que mes jeunes frères puissent s'amuser, prendre du plaisir, gagner à nouveau cette CAN qui se jouera au Cameroun en 2019.
Et si jamais Zidorf et Kluivert vous demandent de revenir dans l'équipe, qu'est-ce que vous leur répondrez ?
Ah non, je ne reviens pas.
Ce sont des amis.
Ce sont des amis, oui, des aînés, mais je ne reviendrai pas. Je pourrais apporter mon aide autrement, mais revenir à l'équipe nationale, il n'en est pas question.
Est-ce grâce à vous que Zidorf et Kluivert sont venus au Cameroun ?
Si je vous dis qu'on ne m'a pas posé la question, ça serait vous mentir. Et je me suis dit qu'est-ce que je pouvais conseiller à mon pays. Et à ce moment-là, après les discussions que notre pays a eu à mener avec les différents entraîneurs et ce qui n'aboutissait pas, à un moment donné, ils se sont retournés vers ces entraîneurs et j'ai dit c'est ce qu'il fallait à notre pays à tous les niveaux.
Cette CAN 2019, est-ce qu'elle aura vraiment lieu au Cameroun ?
Elle aura lieu au Cameroun. Et si vous avez pu voir ces derniers jours, le Cameroun est en train de fournir des efforts incroyables. Il est vrai que le président de la CAF, à un moment donné, dans sa volonté de pousser l'état du Cameroun à aller beaucoup plus vite, avait fait une sortie médiatique. Et je dis merci parce que ça nous a tous réveillés. Et puis aujourd'hui, si vous arrivez au Cameroun, il n'y a pas que les stades, parce que la CAN apporte des infrastructures, des routes, une visibilité pour ce pays pendant un mois et l'état du Cameroun est en train de bien reprendre. Et merci à la CAF qui a bien voulu faire confiance à notre pays.
Il n'empêche, tout n'est pas prêt encore. Hein. Il y a des infrastructures qui manquent, notamment des stades.
Mais vous savez, tout n'est jamais prêt. C'est pas qu'au Cameroun et c'est pas qu'en Afrique. Vous savez, en 2014, la FIFA se posait la question, est-ce que la Coupe du Monde aurait finalement lieu au Brésil parce que le Brésil n'était pas prêt, mais le Brésil, au final, était présent. Et ça sera pareil au Cameroun.
Parmi les villes qui doivent accueillir la CAN 2019 au Cameroun, il y a Limbé, dans le sud-ouest anglophone. Vu les violences politiques dans la région depuis de nombreux mois, est-ce que ce n'est pas inquiétant ?
On n'est pas inquiet, vous savez, il est vrai, le Cameroun, à ce moment, connaît des tensions, mais je suis convaincu qu'on trouvera un terrain d'entente, parce que le Cameroun, c'est une terre de paix, on aime vivre ensemble, et je ne suis pas inquiet, je sais que les matchs se joueront à Limbé, et Limbé, c'est 45 minutes de Douala, hein, et moi, je suis installé à Douala, et je ne suis pas inquiet par rapport à cela.
Et ces tensions politiques, qu'est-ce que vous en pensez ?
Ben écoutez, je ne suis pas encore politicien, mais mon souhait, en tant que jeune Camerounais, c'est que le Cameroun, dans son intégralité, retrouve totalement la paix.
Samuel Eto'o, vous venez de passer 3 ans dans le championnat turc. Maintenant, c'est fini. Alors, où est-ce que vous allez aller ?
On ne sait pas encore. Je suis encore en train de regarder le marché. La chance que j'ai, c'est que je peux signer à n'importe quel moment, dans n'importe quel championnat. Je regarde les offres que j'ai et puis je prendrai ma décision dans les prochains jours.
Alors, on parle de vous dans le championnat de France, ce qui serait une première.
C'est un grand honneur, merci.
Donc, vous confirmez ?
Oh, si je vous dis que je ne parle pas avec certains clubs français, c'est vous mentir. Vu qu'à travers mon avocat, je me suis exprimé en disant que j'étais ouvert à écouter les offres qui venaient de la France. Et puis, déjà Nîmes, au supporter de Nîmes, à qui je fais un petit coucou, j'ai vu que le club Nîmes a directement tweeté sur la possibilité de faire une cagnotte pour pouvoir payer mon salaire. J'ai demandé gentiment si je pouvais participer. Et c'était vraiment bien, c'était bien. Mais bon, on a des offres. Nous allons voir ce qui me convient le mieux pour la fin de ma carrière. Moi, ce que je veux, c'est continuer à jouer au football. Je veux jouer 2 saisons encore et puis arrêter ma carrière et commencer une nouvelle vie.
Samuel Eto'o avec Christophe Bouvier, l'intégralité de cet entretien est à retrouver sur africfoot.rfi.fr. On passe au cyclisme, Thomas, avec les dernières nouvelles du Tour du Rwanda.
C'est déjà la fin, ou presque, Christophe. Il reste une étape demain pour peut-être bouleverser le classement général. Avant cela, l'étape du jour, Musanze Kigali, pour en parler avec nous, l'envoyé spécial, très spécial, je plaisante, bien sûr, de RFI, Olivier Pron. Bonsoir, Olivier.
Bonsoir, Thomas. Bonsoir à tous.
Victoire espagnole aujourd'hui à Kigali.
Oui, David Lozano Riba qui s'impose en costaud, une étape pas très longue, hein, 107 km, mais dure, très dure, 4 ascensions en première catégorie au programme, les deux dernières dans le final avec des pavés à la clé, il y en aura encore plus demain, mais c'était une mise en bouche aujourd'hui, et l'Espagnol donc adepte du VTT qui a distancé les trois Rwandais qui l'accompagnaient sur les derniers kilomètres, le maillot jaune Samuel Mugisha, son dauphin Jean-Claude Ouzeye, et le double vainqueur du Tour en 2014 et 2016, Valens Ndayisenga, équipier aujourd'hui de Ouzeye. Ils sont à 17 secondes à l'arrivée. Une victoire solide, donc, la première cette semaine pour Novo Nordisk, une équipe américaine qui a la particularité, Thomas, de n'avoir dans ses rangs que des coureurs diabétiques. Et un message, donc, à faire passer. On peut souffrir du diabète et être un champion. On écoute David Lozano Riba.
Awesome first victory for the team.
C'est la première victoire pour l'équipe, c'est incroyable. Nous avons essayé toute la semaine, nous avons fait aussi bien que nous pouvions et nous parvenons enfin à nos fins. Je suis super content, l'équipe le mérite vraiment et j'espère que nous ferons aussi bien dimanche.
It feels amazing. No words.
David Lozano Riba, cinquième désormais au général, à 1 minute 33 secondes du leader, Samuel Mugisha, ou Ouzeye, toujours deuxième à 21 secondes. Il devance les deux perdants, entre guillemets, du jour, l'Éthiopien Haile Michael, qui est maintenant à 1 minute 10, et l'Algérien Lagab, à 1 minute 26.
La grande question maintenant, Olivier, c'est la suivante. Peut-on assister demain à une grande bagarre entre Rwandais ?
Oui, c'est la grande question. On se la pose depuis plusieurs jours ici au Rwanda. Beaucoup en doute de cette bagarre, mais c'est ce que nous promet Félix Saint-Pomas, le directeur sportif d'une des trois équipes rwandaises en course. On rappelle que Jean-Claude Ouzeye court, lui, pour une équipe française, et donc, a priori, il doit pouvoir attaquer, et Saint-Pomas nous le promet.
C'est une étape fou, c'est pas très long. Et puis il y a des descentes, il y a des montées. Et comme tu as vu, il y a Valence, il y a Jean-Claude qui descend très 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 bien. Et puis il lâche tout le monde à la descente. Et comme il y a trop peu de secondes, il y aura des bagarres jusque dans les derniers kilomètres entre Jean-Claude et Mugisha Samuel.
Ça veut dire que Lozano Riba, ça veut dire qu'il va y avoir match entre Lozano Riba avec Jean-Claude, avec Samuel Mugisha. Il va y avoir une grande bagarre, c'est sûr.
Oui, c'est sûr, mais il y aura une très grande bagarre parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écart. Et la course qu'on voit, il y a beaucoup de pavés, il y a deux fois Mir de Kigali. Là, ça va avoir beaucoup de bagarres.
Les Rwandais peuvent s'attaquer entre eux.
Oui, les Rwandais s'attaquent entre eux parce qu'ils ne sont pas dans les mêmes équipes. Il y a les Rwanda National Team, il y a Benediction Club, il y a les Rwandais qui viennent de l'extérieur. Ils s'attaquent de la départ de la compétition jusqu'à présent.
Alors on se retrouve demain et on fait le point.
Je serai là.
La grande attraction, Olivier, de cette étape de demain, le juge de paix peut-être, ce sera le désormais traditionnel mur de Kigali.
Une légende, Thomas, qui grandit depuis le premier passage du peloton du Tour du Rwanda, c'était en 2015. 600 mètres de pavé, une pente à 13% en moyenne d'inclinaison, passage à 17%, une ambiance de dingo. Les coureurs y passeront donc deux fois dans les 10 derniers kilomètres de l'étape. Le Français Valentin Guidin connaît et il nous en parle.
C'est devenu un peu une légende ici parce que le public est extraordinaire tout le long. D'une part, le mur est difficile, mais c'est surtout en fait l'ambiance autour et l'engouement de la population qui fait que ça devient vraiment mythique.
On le compare au Koppenberg. Le Koppenberg, c'est le Tour des Flandres.
Oui, oui, mais c'est pas le même niveau. On le compare de par sa dureté, de par l'ambiance qu'on a autour. Après, il faut pas se leurrer, c'est quand même moins difficile que le Koppenberg.
Savoir que vous allez le passer deux fois ce dimanche matin, c'est impressionnant.
Oui, déjà, quand on se dit qu'on le passe une seule fois, c'est compliqué pour nous. On se met un peu de pression parce que c'est sûr que sur un mur comme ça de 800 mètres, on peut vite perdre une voire deux minutes si on n'est pas en forme. Alors là, deux fois de suite, ça va être vraiment éprouvant. Et il va falloir en garder pour la dernière montée finale.
Le public, c'est incroyable.
Oui, sur le mur, en fait, ça fait un brouhaha impressionnant. On n'entend rien, on est vraiment livré à nous-mêmes. On a un brouhaha vraiment tout le long du mur et jusqu'en haut, c'est la folie. On est obligé au final de se donner à fond.
Valentin Goudin, il est dixième au général, le Français. Voilà Thomas, départ de cette dernière étape, 8h30, temps universel, à arriver. Deux heures plus tard, on connaîtra le vainqueur.
Et on le connaîtra grâce à vous. Olivier, vous serez en direct demain matin dans nos éditions. En attendant, bonne soirée et bonne nuit à vous, à Kigali.
L'avant-dernière journée des championnats européens, cette appellation générique de 7 compétitions continentales organisées simultanément à Glasgow et Berlin. 7 nouvelles médailles pour les différentes équipes de France aujourd'hui. Pas de nouveaux titres en athlétisme, mais une jolie médaille d'argent pour le relais féminin 4x400 mètres derrière la Pologne, triomphante ce soir à plus d'un titre. Pierre-Ambroise Boss, très attendu sur la finale du 800 mètres après son sacre mondial l'an passé à Londres, n'a lui décroché que le bronze. C'est son rival numéro 1 sur la distance, le Polonais Adam Schott, qui s'est imposé en 1 minute 44 secondes et 59 centièmes et obtenu son troisième titre européen de suite. Pierre-Ambroise Boss, qui a pris la course à son compte, s'est laissé surprendre finalement dans le deuxième tour et monte sur le podium d'extrême justesse, mais il ne regrette rien.
Je la prends cette médaille, hein. Je la prends volontiers, hein. C'est pas une médaille en chocolat, j'étais à 2 centièmes de la 4ème place comme lui. Donc quand j'ai compris à la fin de course que j'allais pas gagner, je me suis accroché sur chaque poulet pour décrocher une médaille quand même. Et voilà, parce qu'on représente la France, on est là pour ça, bien entendu. Et j'avais envie de ce drapeau, je suis rentré dans le stade en me disant il faut que je sente cette Marseillaise tout à l'heure. Ne me prenez pas pour plus ambitieux que je le suis. Dans tous les cas, je chanterai la Marseillaise dans ma douche tout à l'heure.
Autre médaille de bronze sur 5000 mètres pour Morad Hamdouni. Il avait réussi l'exploit de gagner le 10 000 mètres, mais là, il n'a rien pu faire pour empêcher une autre énorme sensation. La deuxième victoire dans ces championnats du tout jeune Norvégien de 17 ans, Jakob Ingebrigtsen. Et ce, au lendemain de son succès sur 1500 mètres. Ce 5000 a d'ailleurs été une affaire de famille, puisque c'est son frère aîné, Henrik, qui empoche l'argent. Morad Hamdouni, lui, a quitté la piste avec quand même pas mal de frustration.
C'est vraiment dommage parce que je voulais vraiment tenter le doublé. Mais le fait que je gagne ce premier titre sur 10 000, j'ai pas eu le temps de le récupérer. Je l'ai savouré. Et c'est vrai que au niveau du timing, j'ai pas fait mon métier. Mais bon, rien de dramatique. Aujourd'hui, voilà, j'ai un petit goût amer justement. Et bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, je suis satisfait. Voilà, je ne regrette rien. Et il y aura d'autres championnats d'Europe.
Morad Hamdouni et Pierre-Ambroise Boss tout à l'heure avec France Télévisions. La Pologne sacrée sur 400 mètres féminin avec la victoire de Justyna Zwiety-Hercetic. Notez aussi le doublé de la Britannique Dina Asher-Smith, sacrée sur 200 mètres en 21 secondes 89 après l'or sur 100 mètres. Plus de réussite côté français en triathlon à Glasgow avec le titre en relais mixte composé de Cassandre Beaugrand, Pierre Lecor, Léonie Perriot et Dorian Coninx. Le quatuor a devancé la Suisse et la Belgique. Et puis 3 autres médailles de bronze dans 3 autres disciplines. En natation libre, avec le relais mixte 5 km formé de Lara Grandjean, David Aubry, Lisa Pou et Marc-Antoine Olivier. Au concours général de gymnastique artistique, avec Cyril Thomason, Julien Gobeau, Axel Ougis, Loris Frasca et Edgar Boulet. Et en BMX, grâce à Sylvain André, battu par 2 Britanniques, Kyle Evans et Kai White, champion du monde en titre. Sylvain André, qui a failli d'ailleurs ne pas participer à la finale à cause d'une lourde chute à l'entraînement jeudi, n'a pas pu préserver sa deuxième place acquise dès les premiers virages du parcours, d'où une certaine frustration là aussi à l'arrivée.
J'aurais aimé jouer mieux. Après, ouais, il y a une grille rapide qui est pas souvent là et qui vraiment ne correspond pas. J'ai pas réussi à me mettre dedans. Voilà. Après, je me suis retrouvé en position derrière l'anglais. Et puis après, l'autre m'a doublé comme il a fait avec les autres partout. Voilà. Après, avec ce qui s'est passé avant-hier aux essais, d'être en finale, de faire troisième, après deux secondes, troisième, bon. Ça change pas grand chose, donc c'est pour ça que je n'étais pas plus déçu que ça, à part de les voir faire un aider chez eux, mais qui profite, il n'aura pas 12.
Ajoutons que dans cette finale, un autre Français, Jérémy Rancurel, a fini 7e. Ces championnats européens multisports se termineront donc demain. Allez, le handball pour terminer l'émission. Hier à Brazzaville, la Confédération africaine a donné le coup d'envoi symbolique de la prochaine CAN féminine au Congo. Prenez date, même s'il y a encore un petit peu de temps. Ce sera du 2 au 12 décembre, 10 sélections conviées. Et comme d'habitude, l'Angola ultra favorite pour un 13e sacre continental. Les Angolaises versées après le tirage au sort dans le groupe B avec le pays hôte, bien décidé à monter sur le podium, synonyme de qualification pour les mondiaux 2019 au Japon. Voilà pourquoi la fédération a misé sur un entraîneur français qui a déjà fait ses preuves en Afrique avec la Côte d'Ivoire, c'était il y a quelques années. Thierry Vincent, ex-entraîneur des clubs de Mérignac et de Toulon, prêt pour une toute nouvelle expérience sur le continent après son départ du VAR en novembre dernier.
J'étais à la recherche d'un projet, j'ai eu des propositions de clubs qui étaient plus ou moins intéressantes, on va dire. Et est arrivée la proposition du Congo, le président de la fédération, là, Jean-Claude Ibovi, voulait absolument me rencontrer à Paris avec un conseiller du ministre. Leur discours m'a plu parce que je sens que j'ai envie de réussir quelque chose et ils m'ont convaincu de leur projet.
C'est un CDD renouvelable, 6 mois reconductible, c'est ça en fonction des résultats à la CAN?
Au départ, ils voulaient qu'on signe 18 mois, mais c'est moi qui leur ai dit de signer que 6 parce que si ça se passe mal ou s'ils sont pas contents de moi ou l'inverse, hein, c'est pas la peine de s'engager pour 18 mois. Donc, effectivement, il y a une sorte de deal, mais bon, qui n'a rien de formel. Hein. Si ça marche bien, si on monte sur le podium et qu'on va au Japon, je pense que le président aura envie de continuer avec moi et mon staff, hein, parce que je suis pas tout seul. Hein.
Alors justement, j'imagine que vous avez dû quand même demander quelques garanties sur la préparation, sur le plan de travail, sur les moyens.
Alors c'est exactement ça, mais j'ai même pas eu à les demander, parce que c'est le président Ibovir, sans que j'en parle, puisqu'on a d'abord parlé du projet, qui m'a dit, voilà, vous viendrez avec votre préparateur physique. Moi, je suis venu avec le préparateur qui travaillait avec moi à Toulon. Frédéric Balsa, qui est entraîneur des gardiens de but, qui travaillait déjà avec moi à Mérignac, qui avait la Côte d'Ivoire. Alors lui, il vient que pour des missions. Il y a Clarisse Oponzo, qui est une joueuse qui a évolué en France et qui est un peu la représentante des joueuses du Congo en France, qui était aussi entraîneur dans un club en France. Et l'entraîneur de l'équipe championne, là, qui a été championne la semaine dernière. Et pour l'instant, je dois dire que tout se passe comme on l'avait envisagé. Et en plus, j'ai trouvé des joueuses de qualité là-bas.
Vous êtes déjà mis au travail. Il y a eu un tournoi amical récemment là, à Brazzaville avec l'Angola et la RDC. Quels premiers enseignements vous avez pu tirer de cette revue d'effectifs?
On avait les joueuses locales plus les joueuses, comme ils disent, de la diaspora française. Et on a fait jouer tout le monde sur les 4 matchs pour évaluer tout le monde. Donc le résultat avait une importance, mais on va dire... pas essentiel. On s'était juste dit qu'il fallait essayer de progresser, de travailler. Et justement, sur le constat qu'on peut faire, c'est que sur le deuxième match contre l'Angola, ça a été un match très, très intéressant. Et l'entraîneur de l'Angola, Martin Tsoubak, nous a dit que bon, voilà, quoi, c'était intéressant parce que ça avait été une opposition vraiment de qualité.
Sur quoi il faut essentiellement travailler?
À mon avis, le plus gros effort, c'est sur la culture tactique. Voilà, qu'elle soit offensive ou défensive. Donc, ce sont des joueuses avec des qualités individuelles vraiment intéressantes. Et en deux, les capacités physiques à développer. Parce qu'en fait, quand je suis arrivé, j'ai fait à peu près comme à la Côte d'Ivoire. Sur la première journée, j'ai pas travaillé, j'ai observé. J'ai laissé travailler mes collègues locaux. Et bon, on voit les mêmes défauts, quoi. C'est-à-dire que quand on a la balle... on est actif, on fait plein de choses, mais quand on l'a pas, donc il y a pas de repli, voilà, c'est des choses comme ça. On a insisté beaucoup sur ce travail. Et là, on va rentrer dans un deuxième cycle dès qu'on repart, c'est-à-dire le 20 août, où ça va être un gros, gros travail de remise à niveau physique pour tout le monde, pour après envisager d'être costaud sur ça pour pouvoir mettre en place tout le projet de jeu.
Il y a des joueuses sur lesquelles vous allez vous appuyer, je pense peut-être à Jocelyne Mavungu.
Oui, oui, ben, des Congolaises qui jouent en France, il y a Jocelyne Mavungu et Donna Bassarila, entre autres, il y a Chantal Okomba aussi. Mmh. Voilà, après, on devra faire des choix. On a des joueuses françaises qui ont rejoint le Congo. Audrey Bruno, Laurine Daquin, Jacqueline Oliveira, qui était la gardienne que j'avais à Toulon. Donc voilà, ça augmente les compétences du groupe. Mais là-bas, par contre, je dirais qu'il y a 5-6 joueuses qui pourraient évoluer en D2 française et en travaillant peut-être même en D1 dans quelques saisons.
Parce que le championnat local congolais est peut-être encore un peu limité.
Alors ça, c'est sûr, parce qu'en plus, la moyenne d'âge de la sélection, là, elle est relativement basse. Hein. Il y a des joueuses entre 22 et 25 ans, la majorité. Et non, le championnat congolais, j'ai assisté parce que c'était la semaine dernière. On est resté, nous, à observer toute la semaine les finalités du championnat congolais. C'est complètement disparate. Il y a l'équipe des championnes. On avait, sur les joueuses locales, sur les 23 présélectionnées, il y en avait 12 du club de Habbo Sport, là, qui a été champion. Après, le reste, c'est un peu disséminé dans les autres clubs, mais... très honnêtement, on peut pas progresser au travers du championnat là-bas. Il faut faire beaucoup de regroupements, et c'est ce qu'a bien compris le président. Et puis après, on a le feu vert, nous, pour essayer d'en envoyer quelques-unes s'aguerrir dans des clubs français. Bon, en tout cas, on travaille, et puis surtout, on nous met à disposition les conditions pour bien travailler.
Thierry Vincent, le sélectionneur du Congo féminin, qui affrontera donc au premier tour l'Angola, la RDC, la Guinée et le Maroc à cette CAN 2018. L'autre groupe mettra aux prises la Tunisie, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et l'Algérie. Voilà, Mondial Sport se referme pour ce soir. Merci à Alain Avril pour la réalisation. Rendez-vous demain, même heure, avec au menu notamment l'actualité du foot espagnol et la fin du Tour du Rwanda dans un instant 24 heures en France avec Fanny Blechin.